Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Une émission spéciale aujourd'hui pour ses 10 ans, Framasoft squat Place de la Toile. Une émission que l'on pourrait titrer L'Esprit Libre avec Alexis Kaufmann, Adrien Alix, Frédéric Couchier et Christophe Massouti. Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque semaine, l'Internet Explorer Thibault-Henton, très attendu aujourd'hui par les invités. Quand Facebook devient un film d'horreur, la lecture de la semaine, comment les Européens du XVIIe siècle ont aussi été submergés par de nouveaux moyens de communication. Et puis pas près de la machine cette semaine, puisque cet après-midi, Framasoft a apporté sa musique. Ce sera les Sazo. Alors la proposition remonte à quelques mois. Alexis Kaufmann m'a envoyé un mail m'expliquant que Framasoft allait avoir 10 ans en novembre et qu'il aimerait fêter cet anniversaire dans Place de la Toile. Alors, très honoré, ai-je d'abord répondu qu'après Remu.net, site pionnier dans la littérature sur Internet, après le Cube, l'espace pionnier dans l'art numérique, et bien Framasoft, réseau pionnier dans la diffusion du logiciel libre en France, choisisse cette émission pour fêter ses 10 ans. Alors un honneur pour nous. Évidemment, d'abord un honneur, et puis aussi une occasion, celle de parler du logiciel libre. Alors, parce qu'on en mentionne très très souvent dans l'émission comme une sorte d'évidence, mais il est sans doute nécessaire de rappeler en quoi consiste sa logique, et puis à quel point il est important, au-delà même des questions strictement informatiques. Bonjour Alexis Kaufmann.
Bonjour.
Alors vous êtes le fondateur de Framasoft et vous êtes président de l'association. Alors bon anniversaire, Framasoft
merci
a 10
beaucoup.
Ans. Et puis merci d'être venu depuis Rome, où vous enseignez les mathématiques pour nous en parler. Alors si vous deviez faire le portrait de Framasoft, comme on fait le portrait de quelqu'un dont on fête l'anniversaire, à quoi ça ressemble Framasoft ?
Alors, Framasoft, en deux mots, alors vous avez la partie, on va dire, la partie émergée de Framasoft, c'est un réseau de sites web. Une douzaine de sites internet maintenant, qui sont autant de services, de lieux d'échange, de création, dont l'objet principal est de faire connaître, diffuser le logiciel libre.
Et ça représente, parce qu'on disait que c'est un lieu pionnier, lieu important, mais... Qu'est-ce que c'est en termes de fréquentation, par exemple, vos différents sites ? Même si c'est super dur de l'expliquer, puisque vous avez beaucoup de sites, mais en gros, c'est quoi ?
Sur l'ensemble du réseau, aujourd'hui, c'est à peu près 1 million de visites par mois.
Ah ouais, quand même. Ouais.
Et quand vous tapez logiciel libre dans Google, il arrive en numéro 2. Et qui arrive en numéro 1 ?
Justement, c'est la question que je me pose. Wikipédia ?
Voilà,
bingo. Wikipédia arrive toujours en numéro 1. Et c'était quoi, Framasoft, il y a 10 ans, alors ?
Framasoft, il y a 10 ans, ça n'était rien d'autre qu'un modeste petit professeur de banlieue parisienne qui avait découvert le logiciel libre en théorie, c'est-à-dire via un article d'un professeur canadien qui interpellait sa ministre de l'Éducation de l'époque. L'article s'intitulait « Comment informatiser intelligemment les écoles ?» et qui disait tout le bien qu'il pensait, donc on était en 98, qui disait tout le bien qu'il pensait des logiciels libres, de GNU Linux en particulier, et qui invitait les instances à se pencher sur non seulement le logiciel libre, mais son processus de création, toute l'intelligence distribuée qui était en train de se mettre en place via les réseaux. Donc nous étions en 1998.
Mais comment ça a déclenché quelque chose en vous ?
Moi, ça a fait le tilt, c'est-à-dire que... le processus, j'ai compris que la manière dont était élaboré un logiciel libre était quand même assez proche de la transmission du savoir que je pratiquais au quotidien.
Et donc, vous avez, la première chose que vous avez faite, bon, on reviendra un peu plus précisément tout à l'heure sur l'histoire et puis sur vos différents projets, etc. Mais la première chose que vous avez faite, c'est dire quoi ? C'est dire on va créer un annuaire
C'est de sortir dans la rue en criant Eureka. Non, disons que je me suis dit, tiens... Le logiciel libre a quelque chose de particulier. Et quand je me suis retrouvé sur un projet pédagogique très modeste avec une collègue, une professeure de français, et qu'on a, on s'est retrouvé avec un projet qui voulait utiliser les nouvelles technologies, comme on était au début des années 2000. Je me suis dit, tiens, j'avais découvert le monde logiciel via un ordinateur acheté avec Windows dedans. On aura peut-être l'occasion de discuter du fait que c'est curieux.
Donc le système d'exploitation de Microsoft. Donc
voilà, pourquoi les ordinateurs arrivent toujours avec Windows dedans ?
Donc un système propriétaire, l'inverse du logiciel libre.
Voilà. Et je constatais que la toile de l'époque ne me parlait pas, en tout cas francophone, ne me parlait pas de logiciels libres à partir de Windows. C'est-à-dire que c'était, il y a 10 ans, ceux qui s'intéressaient aux logiciels libres, notamment tous les informaticiens, étaient sous Linux. C'était un milieu très, très d'initiés, en fait, de vrais gros geeks. Mmh. Et voilà. Et donc, Internet ayant horreur du vide... ou du plein sous contrôle d'ailleurs. En tout cas, en l'occurrence, il n'y avait pas de site qui allait d'intermédiaire entre ces informaticiens et le grand public pour mettre en valeur les logiciels libres en n'ayant pas peur de partir, de démarrer de Windows, quoi.
Alors présentez-nous peut-être vos invités, puisque vous avez convié des gens à venir discuter autour de cette question du logiciel libre. Alors je ne sais pas, commençons peut-être. Commençons par Frédéric Masouti qui est à votre droite.
Voilà,
Christophe, excusez-moi.
Nous n'allons pas être courtois. J'ai convié à cette table trois éminents représentants du libre francophone. Donc Christophe Masouti qui travaille avec moi au sein de Framasoft et qui est historien des sciences, chercheur à l'Université de Strasbourg.
Et au CHU de Strasbourg.
Et au CHU.
Et qui s'occupe le plus particulièrement du projet Framabook, dont on aura l'occasion de parler.
Adrienne Alix, bonjour.
Adrienne Alix, directrice des programmes de Wikimedia France, qui avant était présidente de Wikimedia France.
Wikimedia étant c'est une association.
L'association qui soutient en France Wikipédia, entre autres.
Mm-hmm. Voilà. Qui avant d'être simple adhérente à l'association, et puis avant contributrice de Wikipédia, et avant lectrice de Wikipédia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Adrienne a dû cliquer sur le bouton modifier de Wikipédia, et elle est passée au travers du miroir.
Ah, c'est ça, c'est en commençant par contribuer. C'était quoi la fiche à laquelle vous avez contribué pour la première fois ?
J'ai créé des articles sur des obscurs religieux du début du 19e siècle, pendant que je faisais mon doctorat d'histoire.
Et donc, de contributrice, vous êtes...
Je suis rentrée là-dedans, je ne savais absolument pas ce qu'était un logiciel libre en commençant à contribuer sur Wikipédia.
Ah, et vous, Christophe Masouti, c'est quoi votre découverte du logiciel libre ?
Ma découverte, c'est un intérêt et aussi un accident. Quand j'ai perdu le chapitre écrit de ma thèse sous Windows, les collègues en face de l'Institut de maths m'ont conseillé vivement d'utiliser Linux.
D'accord, donc un système d'exploitation logiciel libre. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez commencé à verser dans le logiciel libre ?
Alors c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le logiciel libre, ouais. Et puis j'ai versé en participant notamment à la biographie de Richard Stallman, ce qui est une période beaucoup plus récente en fait.
Dont on parlera. Alors Frédéric Couchet, alors vous c'est autre chose, alors pourquoi vous avez convié Frédéric Couchet à Alexis Kaufmann ?
Parce que Frédéric Couchet est un éminent représentant de l'association April, qui elle fête ses 15 ans, qui est une association pionnière...
Après, c'est pour l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre.
Exactement.
C'est ça.
Je voulais que l'on évoque aussi tout son travail sur le terrain, auprès des institutions, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Couchet, au fond, autour de cette table... Non, mais vous êtes le seul informaticien. C'est que ça dit quand même quelque chose du logiciel libre.
Alors, je suis le seul informaticien de formation. Et en plus, ce qui m'intéresse dans le logiciel libre, ce n'est pas tellement la partie informatique, c'est plutôt l'enjeu de société. Parce que moi, à la base, je voulais plutôt faire de la politique pour avoir un impact sur la société, notamment Sciences Po. Et puis, d'obscures raisons, je suis tombé dans une université où, en fait, on utilisait des logiciels libres, à l'époque, le projet GNU. Donc, finalement, on fait tous aujourd'hui du logiciel libre, pas simplement pour des raisons informatiques, mais plutôt pour un enjeu de société, de partage de la connaissance.
Ça va être l'occasion, cette précision, de nous expliquer ou de rappeler, ce qui est quand même sans doute nécessaire, ce que c'est que le logiciel libre dont on parle depuis 10 minutes, sans l'avoir défini. Et ce n'est pas si facile de définir le logiciel libre. Alors, Frédéric Couchet, voilà, puisque vous êtes à la tête de l'association qui est censée le promouvoir, le logiciel libre, comment vous le définiriez ?
Le promouvoir et malheureusement le défendre, mais je pense qu'on y reviendra. Comment je le définirais ? On peut le définir de deux façons. La première, c'est la façon la plus directe, c'est les quatre libertés que les utilisateurs de logiciels libres donnent à leurs utilisateurs et aux autres développeurs. Donc la première, c'est la liberté d'utiliser le logiciel. Donc là, quelle que soit la façon dont on s'est procuré le logiciel, qu'on l'ait téléchargé sur Internet ou acheté dans le commerce, on peut l'installer sur un poste, sur tous les postes de la maison, tous les postes de l'entreprise. Donc ça, c'est la première, c'est la liberté d'utilisation. La deuxième, c'est qu'on peut étudier le fonctionnement du logiciel, parce que le logiciel libre vient avec sa recette de cuisine, le code source, c'est-à-dire la forme sous laquelle l'informaticien a travaillé. Donc ça, c'est très intéressant en termes pédagogiques, en termes de sécurité, etc. Troisième liberté, c'est la liberté de le modifier. Il est important de comprendre qu'un logiciel, ce n'est pas un objet fini, c'est un objet qui répond à des fonctionnalités à un instant T. Donc il faut pouvoir le faire évoluer, et puis il faut pouvoir corriger des bugs. Donc il est important de pouvoir modifier le logiciel. Donc ça, c'est la troisième liberté, c'est la liberté de modifier le logiciel libre. Ces trois libertés concernent finalement uniquement la personne qui a reçu ce logiciel. Mmh. Ce qui va créer l'aspect communautaire et l'aspect partage du savoir et de la connaissance, c'est la quatrième liberté, c'est celle de redistribution. Donc la liberté de redistribuer la version originale du logiciel. Donc par exemple, vous êtes chez un ami qui vous montre le dernier logiciel libre très bien pour les enfants, comme par exemple, je ne sais pas, moi j'ai compris, dont on parlait tout à l'heure, qui est un logiciel libre
en
éducatif.
En montant dans l'ascenseur. Ouais.
Voilà. Et ben, vous pouvez en faire une copie sur clé USB ou sur un CD-ROM, vous repartez avec. Et de même que vous pouvez redistribuer les versions modifiées du logiciel libre que vous avez récupéré, de la même façon que le savoir se fait par rajout de briques, et ben, dans le logiciel libre, vous avez des briques qui sont disponibles. Vous les utilisez, vous rajoutez ce que vous avez besoin.
Et en quoi est-ce que c'est une question philosophique au fond ? Parce que là, vous nous parlez d'informatique, vous parlez de briques, vous parlez de code source, vous parlez de... Pourquoi c'est une question philosophique ?
Alors, ça, c'est la présentation, effectivement, je dirais, technique du logiciel libre. Mais sinon, il y a une autre façon de le présenter, qu'utilise beaucoup Richard Stallman, qui est l'une des personnes informaticiens qui est à l'origine du mouvement du logiciel libre.
Qui a théorisé.
Qui est un Américain, et quand il vient en France, il exprime ça en trois mots, très simples. Liberté, égalité, fraternité. Pour lui, le libre, c'est l'incarnation informatique de la devise républicaine. Pourquoi ? Parce que les quatre libertés que j'ai évoquées, utilisation, étude, modification, redistribution, égalité parce que tout le monde a les mêmes droits, qu'on soit un simple individu comme nous, qu'on soit une entreprise, on a les mêmes droits, et fraternité parce que le but, c'est de favoriser le partage et l'entraide.
Cette idée de fraternité, je la trouve vraiment fondamentale. Et dans cette belle devise républicaine, vous pouvez légiférer sur la liberté, sur l'égalité, mais par contre, la fraternité ne se décrète pas.
C'est vrai.
Mais les quatre libertés qu'a citées Frédéric et qui font le logiciel libre, elle le contient en son sens. Comment dire, c'est un potentiel. C'est là en germe et ça favorise cette fraternité.
Et ça, par exemple, il suffit pour le vérifier d'aller voir, je sais pas, un forum d'utilisateurs et de participants à l'édition d'un logiciel libre pour voir comment ça fonctionne. Enfin, parce que
oui,
c'est un côté extrêmement émouvant aussi.
C'est vrai. Ça n'est pas l'apanage du logiciel libre, mais si tu ne sais pas demande et si tu sais partage, qui est un petit peu la devise. Sur les forums internet, effectivement, elle fonctionne à plein dans le monde du logiciel libre.
Mais la question qu'on se pose en vous écoutant, c'est pourquoi tous les logiciels ne sont-ils pas libres ? Au fond, pourquoi vous avez des adversaires ? C'est magnifique ce que vous dites là. Ok.
Non, on se posait la question de qui allait répondre.
Pourquoi ça allait coucher.
Alors, une bonne partie des logiciels qui existent dans le monde sont des logiciels libres. Par exemple, quand vous allez sur internet, la majeure partie des logiciels qui vous permettent de naviguer sur Internet sont des logiciels libres. Que vous preniez Firefox, par exemple. Alors, je sais qu'ici, il y a une chronique qui s'appelle Internet Explorer, mais néanmoins, il y a un logiciel libre qui s'appelle Firefox. Quand vous échangez du courrier électronique, les serveurs font tourner du logiciel libre. L'architecture logicielle et technique d'Internet, c'est du logiciel libre. Mais par contre, on pense qu'en fait, le logiciel libre est peu développé parce qu'effectivement, il y a un point sur lequel il est très peu présent, c'est le poste de travail. Pour une raison très simple, c'est que le poste de travail aujourd'hui, quand vous allez acheter un ordinateur dans une grande surface, l'ordinateur est préinstallé avec un logiciel propriétaire, généralement Microsoft Windows. Donc les gens, un, ne savent pas qu'il existe du logiciel libre, et deux, même s'ils savent qu'il existe du logiciel libre, de toute façon, sont obligés de payer un racket, c'est-à-dire pour ça qu'on appelle ça du racketticiel.
Microsoft, vous appelez ça du racketticiel.
Il y a un site qui s'appelle racketticiel.info.
Ah ouais.
Donc, on est obligé de payer un racket pour pouvoir d'abord, derrière, utiliser du logiciel libre. Donc, le logiciel libre est très développé, simplement, effectivement, dans l'imaginaire des gens qui ne connaissent principalement l'informatique à travers Microsoft Windows ou Apple, ils ne connaissent pas le logiciel libre. Mais si demain, on pouvait aller dans une grande surface, acheter le matériel et simplement payer des clés d'activation pour dire, moi, je veux la version avec Windows ou je veux la version avec GNU Linux ou je veux la version avec tel système, et ben là, on aura franchi un grand pas.
Je voulais ajouter une petite digression historique, c'est qu'au début, lorsque le logiciel est apparu, il était libre, en fait.
Ouais.
Ils se partageaient, comme les mathématiques, au sein du monde universitaire. Et certains ont eu la bonne idée commerciale, en tout cas, de fermer tout d'un coup le code. Alors, ça donne tous les success stories à la Bill Gates, Steve Jobs, etc. Mais voilà. Donc, tout d'un coup, c'est pour ça que l'April, il y a la notion de défense, je dis, parce qu'au départ, les choses se partageaient naturellement.
Il y a surtout aussi une confusion avec la notion de propriété intellectuelle et propriété industrielle. C'est là le principal souci, c'est que de l'arithmétique, oui, ça se partage, mais des logarithmes aussi. En quelque sorte, ça devrait se partager au même titre que la connaissance et la production du produit fini logiciel, ben, en fait, elle peut être assimilée par certains comme étant une propriété fondamentale.
Question aussi ô combien importante. Alors, vous avez fait le lien avec l'Internet Explorer Thibaut Henton, qui peut-être un jour devrait s'appeler Firefox. On verra, peut-être un jour on modifiera ce titre, mais tant que ça fonctionne. Donc tout de suite, l'Internet Explorer. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors, donc, dans la provocation totale, vous faites une chronique qui s'appelle Internet Explorer et puis vous allez parler de Facebook.
Ouais, je me suis dit qu'il fallait mettre un peu de Minitel 2.0 dans cette émission libriste. Alors, jamais je ne clique sur les applications Facebook parce que ces appendices au réseau social qui s'y intègrent comme une sorte de service à domicile exigent en retour un accès à notre compte et à toutes ces données. Par exemple, avec l'application Spotify, ça permet d'écouter de la musique en streaming depuis la plateforme, tout en laissant nos amis Facebook savoir quel titre est en train d'être joué là, maintenant, sur notre ordinateur. C'est assez effrayant parce que c'est automatique, et puis on ne sait jamais quel usage ces applications font des données personnelles ainsi collectées. Surtout, les intérêts en jeu sont parfois obscurs. Je tape dans Google le nom des deux compagnies. Je tombe sur un article d'OVNI qui révèle que tandis que ce partenariat entre Facebook et Spotify se présente comme non économique, SIC, il est en fait le résultat de prises de participation progressives de Facebook dans le site de streaming musical, où l'on retrouve Sean Parker, un des créateurs de Napster, qui, toujours selon le papier d'OVNI, correspondance à l'appui, aurait toujours rêvé de reconquérir le marché des préférences musicales depuis sa jeunesse pirate. Bon, toujours est-il que quelqu'un poste sur Facebook le message suivant « Essayez ça ». Et de pointer vers un site, takethislollipop.com, présenté comme une expérience interactive en connexion avec Facebook. Takethislollipop...
Prends cette petite sucette.
Parfait. Voilà. Donc je clique. Me voilà sur le site, et c'est bien une sucette, toute bleue, qui s'y affiche. Une friandise qui laisse entrevoir, au bout du bâtonnet qui la maintient, une lame dissimulée sous le sucre bleu, une lame de rasoir. Cette page s'accompagne pour toute légende d'une injonction, « I dare you ouais. », je te mets au défi. Et sur cette page, toujours, il est conseillé d'écouter ce qui va suivre très fort. Et on promet également que l'application ne conservera pas mes informations personnelles, qu'il ne faut voir là qu'un divertissement. Plus qu'un pas à franchir que je n'avais jamais osé, mais que 7 millions de personnes ont déjà franchi, indique le site, Connect with Facebook. Hop, je suis renvoyé vers le réseau social, j'entre mon mail et mon mot de passe pour l'autoriser à communiquer mes informations basiques, mes listes d'amis, mes centres d'intérêt, en tout cas ceux que j'ai jugé bon d'afficher là. Ça charge et c'est parti pour 1 minute 40. Fort, 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 qu'il disait. Donc, et là, je ne sais pas si la musique ne fait qu'évoquer, mais c'est l'angoisse. C'est un film, nous sommes dans une pièce au volet cassé qui ne laisse filtrer qu'un mince rayon de lumière. Un homme en Marcel, sale, la main sur sa souris, fait face à un écran. Il se connecte à Facebook et là, stupéfaction, c'est mon profil à moi qui apparaît avec ma photo et tout. Gros plan sur le visage de cet homme, mâchoire serrée, peau burinée, suintant. Il parcourt mon mur, là où s'accumulent toutes les choses que j'ai postées, quelques phrases de circonstances, des photos, des liens vers des articles du diplôme et autres. Le doigt collé sur sa molette, il fait défiler ma liste d'amis, parcourt mes photos, et plus il viole mon intimité, plus il semble en colère, jusqu'à se prendre la tête à deux mains et se balancer nerveusement sur sa chaise. Et voilà qu'il repère mon adresse, qu'il entre dans Google Maps, mais c'est pas possible, et pourtant son visage est collé à son écran, donc à mon interface sociale avec le monde, et ses doigts lubriques le caressent, tandis qu'il défile une photo de moi et de mes amis. Plus de doute, il me veut du mal. Une succession de plans saccadés le montre ensuite au volant de sa voiture, bien déterminé à me régler mon compte. Il en sort un cutter à la main, fin du film, on souffle. La sucette réapparaît, elle n'est plus bleue, mais rouge, un compte à rebours s'enclenche, 60 minutes avant une mort certaine, jusqu'à la prochaine victime. Selon l'application, ce sera un de mes amis. Bon alors, je dois vous avouer, je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et qu'il m'est revenu en mémoire cette scène de torture dans Marathon Man, où le tortionnaire ne cesse de répéter à Dustin Hoffman « C'est sans danger, c'est sans danger. »
C'est sans danger.
Je ne comprends pas.
C'est sans danger. C'est sans danger.
Voilà. Le lendemain matin, téméraire, j'ouvre à nouveau mon compte Facebook. Un autre ami poste un lien vers un article du New York Times intitulé « Un mystérieux site crée un film d'horreur avec vous dans le rôle principal ». Je clique évidemment et là j'apprends que l'auteur de cette application s'est révélé sur Twitter et qu'il est un habitué de ce genre de coup. La campagne Elf Yourself par exemple, vous vous souvenez non ?
Pas du tout.
Bon, c'était lors de Noël dernier, ça permettait d'envoyer une carte animée avec des elfes dansant sur cette musique. Sauf que leur tête était remplacée par le visage de votre choix. Effet comique garanti, mais il suffit de rechercher l'application aujourd'hui pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une pub pour Office Max. Office Max qui se trouve après clic être un site de vente de fournitures de bureaux. Dans le cas de Take This Lollipop, à en croire son concepteur, c'est différent. Il ne l'aurait créé que pour la réponse émotionnelle intense que ne manque pas de susciter la mise en abîme de notre compte Facebook, devenue la trame d'un thriller. Dans cet article du New York Times, le concepteur a beau se montrer rassurant, « Nous ne faisons rien d'insensé avec vos informations, c'est seulement une impression. » De deux choses l'une. Depuis Help Yourself, soit le bonhomme s'est politisé, soit il cherche à séduire quelque annonceur. Dans tous les cas, c'est louche, il y a anguille sous roche, ou devrais-je dire, il y a rasoir dans la sucette.
Merci Thibaut, vous écoutez France Culture, Place de la Toile et Lil Wayne, Lollipop. Nous fêtons donc aujourd'hui dans Place de la Toile les 10 ans de Framasoft, réseau de praticiens et promoteurs du logiciel libre. Alors donc on a rappelé les bases de la discussion, ce que c'est que le logiciel libre. Alors, venons-en maintenant au type de projet développé par Framasoft. Donc au départ, vous nous avez expliqué, Alexis Kaufmann, que c'était une sorte d'annuaire de logiciel libre à disposition, c'est ça, avec des tutoriels.
Au tout départ, c'était une sélection de logiciels que je trouvais pratique pour mon usage professionnel et où je ne faisais pas la distinction entre d'ailleurs logiciel libre et gratuit parce
oui.
que
parce que c'est une distinction
Windows
à faire, c'est ça.
Ah ben
parce que tout logiciel libre n'est pas gratuit.
C'est une distinction fondamentale, parce que Facebook est gratuit, par exemple.
Ouais, voilà. Bon, non, mais ça sera fait une fois pour toutes. Donc au départ, c'était des logiciels que vous trouviez intéressants pour vos pratiques, etc. Et puis ?
Voilà, donc ça a démarré sur un annuaire qui classait et commentait les logiciels libres et gratuits. Et quand il y a eu assez de logiciels libres sous Windows de qualité, on a pris la décision d'abandonner les logiciels gratuits, de les enterrer purement et simplement. Et cet annuaire a grandi maintenant et aujourd'hui, on en est à 1500 logiciels libres classés, commentés, testés, annotés, etc.
Oui, et où vous vous aidez à l'installation.
C'était vraiment le démarrage et ça reste le gros site qui rend service aux utilisateurs. Mais là-dessus, se sont greffés une multitude d'autres projets parce qu'au départ, j'étais tout seul.
Ouais.
Et puis, petit à petit, ils sont venus plein de gens.
Et donc, les projets, alors on ne va évidemment pas tout décrire, mais alors moi, il y en a un que je trouve extraordinaire, c'est la Framaki. Qui est une sorte de clé USB que vous proposez et qui en fait c'est comment expliquer d'ailleurs ce que c'est compliqué d'expliquer ce que c'est une sorte d'ordinateur sans terminal quoi c'est une sorte d'ensemble de logiciels.
Voilà, c'est une sorte de... On peut même aller jusqu'à dire que c'est une sorte d'ordinateur que vous emportez avec vous lorsque vous avez directement le système d'exploitation parce qu'aujourd'hui on propose aussi une distribution GNU Linux dessus, distribution Ubuntu. Donc, qui permet, à partir du moment où vous décidez de faire démarrer l'ordinateur sur la clé USB, à ce moment-là, tout tourne sur la clé USB.
C'est-à-dire que vous trimballeriez, voilà, vous avez votre clé USB, vous arrivez sur un ordinateur, et hop, vous mettez la clé USB, et dans ces cas-là, vous êtes, voilà. Tout s'installe.
Soit vous démarrez directement avec le système d'exploitation Linux, soit vous trouvez un poste Windows allumé, Vous mettez la clé dessus, vous faites tourner les applications qui sont sur la clé. On a eu des retours, par exemple, c'était au moment des Jeux Olympiques en Chine. Il y a des gens qui étaient bien contents d'avoir la Framaki pour passer les systèmes de sécurité dans les cybercafés chinois.
Et ça leur permettait de faire ça ?
Absolument.
Ah oui, et combien de personnes ont téléchargé ou enfin utilisé, parce que oui, ça c'était déjà
la clé. Sachant que j'allais venir à cette prestigieuse émission, j'ai demandé à notre salarié, que je profite de l'occasion pour le saluer, Pierre-Yves Gosset, parce que travailler pour Framasoft, c'est pas une sinécure, c'est plutôt un sacerdoce. Donc on en est à 2 millions de téléchargements. Dont vous, Xavier, donc, si j'ai bien compris.
Non.
Ah non, vous l'avez acheté.
Non, moi j'ai regardé comment ça marchait. Je trouve ça super, mais je ne l'ai pas.
Donc ça fait. Et donc 2 millions de téléchargements pour la clé. On a aussi, je profite pour citer quelques projets, un projet qui s'appelle Framapack qui permet. Mettons par exemple, vous achetez un ordinateur neuf et vous avez envie d'installer des logiciels avec sous Windows pour le coup, et que vous avez envie d'installer des logiciels libres dessus, vous pouvez faire une sélection comme on va au marché, vous cliquez, je veux une suite bureautique, LibreOffice, je veux un navigateur qui ne serait pas Internet Explorer, mais qui serait Firefox. Vous faites une succession de clics et vous téléchargez juste un petit exécutable qui va les installer une fois pour toutes d'un bloc. Et ça, c'est assez utile, par exemple, si vous avez un ordinateur neuf ou si vous devez gérer un parc informatique installé à la volée. Et ça permet de ça permet de diffuser aussi le logiciel en masse. En l'occurrence, c'est 100 000 logiciels libres distribués depuis l'ouverture de ce projet.
Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a ça. Là, on est sur des questions qui sont encore, même si on a expliqué l'articulation entre les deux, sur des questions encore informatiques.
Beaucoup, parce que nous, on fait vraiment. On est de temps en temps, on s'amuse en disant qu'on est on est une arme de diffusion massive du logiciel libre, quoi. On a tous ces projets-là. On a aussi un DVD qui propose aussi une compilation de logiciels libres. On fait de l'intégration. Nous, on ne crée pas les logiciels.
Oui, bien sûr. Ils existent
d'ailleurs. On a peut-être pas eu l'occasion de le dire, mais donc, moi, je suis un simple utilisateur. Christophe également.
Adrien, je pense aussi.
Il y a juste un petit peu Frédéric. Comme il est vieux, il a connu les premiers temps de l'informatique. Mais nous, on est un des intermédiaires entre les développeurs et les utilisateurs. Et on cherche à leur faciliter la vie, quoi. Et alors, tous les projets, donc là, on a cité la clé, il y a les DVD, évidemment, il y a un forum d'entraide, etc., sont là pour faire en sorte d'accompagner les gens, leur faire découvrir et de leur mettre le pied à l'étrier. Découvrir qu'il y a un petit supplément d'âme. Parce que...
Et c'est quoi le supplément d'âme, justement ? Comment vous le décririez, Frédéric ?
Non, c'est pour ça. Je voulais réagir sur l'importance de Framasoft. Tout à l'heure, Alexis, tu as parlé de 98. Comme je suis relativement vieux, j'étais déjà présent en 98. Et c'est vrai que Framasoft a apporté quelque chose qui est essentiel et qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est un accompagnement des utilisateurs qui sont sous système propriétaire. Parce qu'effectivement, même si on est convaincu par le logiciel libre, pour des raisons économiques ou autres ou philosophiques, après, passer complètement à du logiciel libre, c'est pas forcément évident. Par contre, Framasoft propose un passage progressif. Et ça, c'est un rôle vraiment essentiel sur lequel ils ont joué un rôle et qui aujourd'hui est unique. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, on a fait pas mal de choses avec Framasoft. Nous, on a rédigé des documents, ils ont fait des Framakis, etc. Mais le rôle essentiel, c'est cet accompagnement de ces utilisateurs qui apprennent à un moment qu'il existe le logiciel libre, veulent commencer à l'utiliser, mais pas complètement.
Et puis c'est aussi une façon de faire parce qu'il y a différents projets que vous avez évoqués et puis il y a des projets qui sont très pratiques, par exemple Framalang pour la question de la traduction. C'est mettre en commun, disons, les savoirs des gens là pour, par exemple, traduire des textes.
C'est un projet intéressant parce qu'il n'y a plus du tout de logiciel pour le coup. Mais par contre, il y a une manière de produire du contenu que l'on estime libre, entre guillemets. Alors, Framalang, c'est simplement, j'ai constaté que les francophones n'étaient pas encore totalement bilingues en anglais.
Dingue.
C'est dingue, incroyable. Et donc, quand vous leur traduisez des articles qui venaient principalement du monde anglo-saxon, du coup, ils les découvraient parce qu'en langue originale, ils avaient plus de mal. Et donc, nous, on se retrouve notamment via le blog à repérer, donc il y a un travail de veille, à repérer des articles qui ne seraient absolument pas traduits par les grands médias, parce que ça ne les intéresse tout simplement pas.
À part nous, ici.
Et en plus, on les produit de manière... Les traductions sont faites sur une plateforme Internet totalement collaborative. Donc, quelqu'un propose une traduction, met le texte original sur un site dynamique où chacun peut participer. Et puis, ceux qui sont disponibles à ce moment-là, ceux qui trouvent l'article intéressant, le traduisent ensemble en commun.
Et puis, Alexis Kaufmann, il y a Framabook. Donc vous êtes venu avec Christophe Massouti, qui lui est venu pas de Rome mais de Strasbourg, et vous voilà, vous rencontrez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez content de vous voir, parce qu'effectivement tout le problème de ces collaborations, c'est qu'elles se font à distance par la machine.
C'est le moment de parler entre nous.
Voilà, voilà. De parler, de se toucher.
Absolument, non, mais c'est important parce que nous, on est, Framasoft est principalement présent sur le web, sur Internet, et ces temps de in the real life, comme on dit, sont importants. Framabook, notre petit slogan, c'est le pari du livre libre.
Ouais.
Le slogan de Framalang, c'est My Tailor is Free, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et voilà, et je voulais que Christophe, d'abord. Je pense que c'est intéressant qu'il nous raconte un peu comment il a mis le pied dans Framasoft, mais on n'en est toujours pas ressorti. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un livre libre, finalement ?
Christophe Massouti, qu'est-ce que c'est qu'un livre libre, finalement ?
Un livre libre, c'est un livre qui, d'abord, respecte le droit d'auteur. Alors, on a appelé ça le pari du livre libre, parce qu'effectivement, c'est un pari. On peut libérer du code, on a vu ça avec le logiciel libre, c'est un modèle économique à part entière, on peut libérer de la documentation... La documentation des logiciels, par exemple. On peut libérer de la musique. Mmh. On va en entendre un extrait tout à l'heure, si j'ai bien compris. Mmh. On peut libérer les sciences, puisque si on prend l'exemple du mouvement Open Archive ou le CERN actuellement qui publie ses productions sous Creative Commons. Mais si on libérait aussi les livres, ce serait pas mal. Ça ferait un beau support pour la culture libre. Alors, comment on libère un livre ? C'est-à-dire, il faut d'abord trouver un auteur. Alors ça, c'est le rôle, je dirais, de Framasoft. Historiquement, je crois que le premier livre sur Thunderbird, c'est le logiciel de gestion client courrier de mail. C'était en quelle année, Alexis ? C'était 2001 ?
Non, c'était en 2004.
En 2004, en 2004. D'accord. Donc ça, c'est le premier Framabook qui est sorti. Et puis là, on reste encore dans le domaine du voilà, comment on utilise un logiciel, etc. Donc c'était déjà pas mal. Et puis finalement, le livre qui a tout déclenché et qui fait que je suis resté attaché à Framabook, c'est la biographie de Stallman. Alors en fait, c'était quoi l'histoire en deux mots hein.
Je peux raconter, parce qu'en fait, il y avait une biographie de Richard Stallman qui avait été...
Par un journaliste américain.
Voilà, qui avait été publiée en américain, chez les Américains. Simplement, la licence a collé à ce livre... autoriser la traduction et même d'ailleurs le commerce. C'est ce qu'on appelle, c'était une licence libre. En l'occurrence, c'était la GNU FDL. Et donc, je me suis dit, c'est dommage que, disons qu'il y a quand même beaucoup de biographies de personnages totalement insignifiants, pourquoi, en langue française, pourquoi ne pas proposer également celle de Richard Stallman, surtout qu'il n'y a aucune entrave au niveau de la licence. J'ai lancé un appel sur le blog. Et après, ce sont des appels à bonne volonté. Et comme souvent dans le logiciel libre, si ça correspond à un intérêt...
En quoi c'est différent d'un autre livre ? D'abord, la traduction s'est faite d'abord de manière très collaborative, très ouverte, et puis après de manière un peu plus fermée pour des questions de pratique, parce que c'est compliqué que tout soit toujours modifié éternellement. Bon. Mais en quoi c'est différent d'un autre livre, dans la manière dont ça se construit, Christophe Massouti ?
Disons que on a d'abord fait la traduction du livre existant qui était publié en 2001. Bon, il était sous licence libre. Ensuite, pour une banale affaire d'illustration, j'ai contacté Richard Stallman. Puis il m'a dit, moi, le livre de Sal Williams, je ne l'ai jamais cautionné.
Ah oui.
Ah. Alors on s'est dit, bon, alors comment, qu'est-ce qu'on va faire ? On a traduit pour rien ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on publie directement ? Bon, après tout, on peut, puisqu'il est sous licence libre. Et puis là, Richard Stallman et moi, on a commencé à travailler ensemble pour réécrire sa biographie. Donc, attitude complètement schizophrénique de ma part, puisque je suis historien et que c'est bizarre de faire une biographie, modifier une biographie par son sujet.
Bien sûr. Ouais.
Mais en même temps, c'est du libre. Donc, n'importe qui est capable de cautionner et de modifier.
Je vais préciser que c'est pas tellement une réécriture, c'est plutôt des ajouts de commentaires et d'interprétations. C'est-à-dire que j'ai lu les deux versions, et dans votre version effectivement modifiée, les passages de Sal Williams que Stallman avec lesquels n'était pas d'accord étaient toujours là. Et simplement, il y avait en plus le commentaire de Richard Stallman, et j'ai trouvé ça vraiment incroyablement intéressant.
C'est qu'au fond, il hack. C'est ça, il hack son propre livre.
Il a légalement.
Voilà.
D'accord. Ouais, donc, c'est un livre libre, disons, ça peut être un livre hacké voilà. par la personne qui est le sujet du livre.
Exactement.
Donc, on commande du code aussi informatique. On peut commenter à un moment en disant ça sert à faire ça permet de faire telle action. Donc, c'est de la même façon.
Tout pareil. Ouais, on reste dans la collaboration.
Ça reste bien dans l'esprit.
Donc, on reste dans la collaboration pour ce qui est la traduction et on reste dans la collaboration pour ce qui est le livre final textuellement, c'est-à-dire un objet qui est construit à la fois par l'auteur du livre au départ, mais aussi celui qui a été le sujet du livre. Enfin, donc, ça donne une sorte d'objet comme ça, totalement collaboratif de tous les côtés.
Voilà, tout à fait.
Et au final, vous l'avez aussi en libre téléchargement sur Internet dans son intégralité.
Oui, évidemment. Bon, ça, juste dans la cabine, Vincent René et Olivier Guérin me disaient au casque, mais le problème, c'est quoi votre modèle économique? C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas posée jusque-là.
Voilà, parce que vous disiez évidemment, mais en même temps, les livres existent en version papier.
Ils sont achetables, 22 euros, je crois.
Voilà, ouais. On en a vendu 10 000.
Mais le modèle de Framasoft, vous disiez, il y a un salarié. Oui. Il est payé par qui, par comment?
Il est payé principalement par la bonté et la générosité de nos utilisateurs.
Qui sont aussi des utilisateurs, qui sont aussi des gens qui participent d'une manière ou d'une autre. Donc les gens à la fois participent bénévolement et contribuent à l'existence de toutes ces plateformes.
Et ça peut être en achetant une version papier des livres dont ils savent pertinemment qu'ils peuvent
télécharger gratuitement.
Et les mettre sur leur liseuse.
Oui, je trouve que franchement, donner 10, comme c'est mon cas, par exemple, je donne 10 euros par mois à Framasoft pour la production de culture que vous faites, c'est franchement pas grand-chose que je donne. Et je voulais juste répondre à l'interrogation de Xavier sur finalement quelle est la différence entre les livres libres et les autres par rapport aux traductions. C'est que la licence nous permet à n'importe qui de faire la traduction sans demander l'autorisation préalable. L'autorisation préalable est déjà donnée. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y aurait plein de livres qui sont sous licence libre, que les gens auraient peut-être envie de traduire, mais à chaque fois, ils doivent demander l'autorisation. Là, la différence, elle est déjà donnée, cette autorisation.
Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on est capable de publier avec les auteurs. Mais aussi, on n'a pas que des traductions. C'est-à-dire que c'est là où je voulais en venir. Quand je disais tout à l'heure que le livre libre, c'est d'abord un livre qui respecte le droit d'auteur, c'est que... un auteur est capable aujourd'hui de diffuser son livre et de définir a priori les conditions de sa diffusion, de son appropriation.
Ouais, et non pas signer un contrat d'édition dans lequel tout a été décidé par l'éditeur. Hein.
Alors on fait des contrats d'édition. Ça s'appelle des contrats de cession non exclusive de droits d'auteur.
Ah ouais, ça vous ferait bondir le syndicat national de l'édition en disant
terrible,
ça.
Terrible, hein. Et alors on s'arrange avec le prix unique du livre. Hein.
Alors on est obligé d'aller vite hein, parce qu'il y a plein de choses. On va parler avec Adrien Alix, on va franchir encore une étape dans cette idée de l'esprit libre en allant encore un peu au-delà des projets de Framasoft et voir comment tout ça se connecte à des projets plus globaux. Mais tout de suite, la lecture de la semaine qui est un vol total hors de toute question de droit. La lecture de la semaine, il s'agit d'un post du blog que Cynthia Haven, qui est critique littéraire, tient sur le site de l'université de Stanford en Californie. Le titre du post est « Les nouveaux médias sociaux ne sont peut-être pas si nouveaux que cela ». Si vous vous sentez submergé par les médias sociaux, commence Cynthia Haven, sachez que vous n'êtes pas les premiers dans l'histoire. Une avalanche de nouvelles formes de communication s'est abattue aussi sur les Européens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle a vu la conversation exploser, explique Anaïs Saint-Judd, qui est directrice du programme Bibliothèque de Stanford. C'était la version moderne de la surcharge d'informations. La révolution copernicienne, l'invention de l'imprimerie, l'exploration du nouveau monde, tout cela devait être digéré au fur et à mesure que cela se produisait. Et le service public des postes a été pour nos ancêtres l'équivalent de ce que sont pour nous Facebook, Twitter, Google+, ou les smartphones. C'est-à-dire des lettres par milliers ont commencé à traverser Paris chaque jour. Voltaire en écrivait entre 10 et 15 dans la journée. Racine se plaignait de ne pas pouvoir suivre le rythme du courrier qui lui arrivait. Sa boîte était pleine, dirait-on aujourd'hui. Alors, que ces gens se racontaient-ils? Eh bien, pas forcément grand-chose, un peu comme dans les mails d'aujourd'hui. C'était l'équivalent d'un coup de fil pour inviter quelqu'un à dîner ou lui dire « Ah mon Dieu, dis donc, vous savez ce qui est arrivé au Duc », explique Dan Edelstein, qui lui est un des directeurs du projet de Mapping the Republic of Letters de Stanford. Quelque chose avait changé à cette époque. Les services de la poste commerciale étaient en plein essor. Ils existaient depuis des siècles, hein, certes, mais ils avaient d'abord servi à l'État, puis aux commerçants et aux banquiers, et soudain, ils sont mis à transporter des correspondances privées. Plus de gens écrivaient, et plus de gens pouvaient répondre rapidement, pas seulement d'ailleurs à leurs amis et à leur famille, mais à travers de longues distances avec des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés et ne rencontreraient jamais, un peu comme nos amis Facebook. Alors selon Anaïs Saint-Jude, ce fut une époque comme la nôtre d'hyper-écriture et même d'addiction à l'écriture. Madame de Sévigné a écrit 1120 lettres à sa fille qui vivait en Bretagne, on se souvient, entre 1670 et sa mort en 1696. À cette époque, les rues de Paris étaient jonchées de morceaux de papier, des billets, sur lesquels quelques phrases cabreuses ou alors politiquement diffamatoires étaient jetées au public. Ça vous fait pas penser à Twitter ? Demande Haven. Et puis ces petits morceaux de papier dans votre poche, hein, ils pouvaient vous attirer de gros problèmes. Voltaire a été jeté en prison à cause d'un de ses billets. Néanmoins, ces affichettes minuscules et anonymes permettaient de contourner la censure et elles étaient aussi un moyen d'organiser des manifestations. Et bah, comme dans les révolutions arabes, note Edelstein. Alors qu'est-ce qui est public ? Qu'est-ce qui est privé ? Autre question qu'on s'est posée à l'époque. Plus de correspondance signifiait que des lettres pouvaient tomber dans de mauvaises mains. Les liaisons dangereuses, hein, le roman épistolaire de Laclos, a montré tous les dangers et les disgrâces encourues par les auteurs d'une correspondance rebelle. À notre époque, est-il nécessaire de rappeler le triste sort hein, d'Anthony Wiener, vous savez, le représentant démocrate qui a été obligé de démissionner parce qu'il avait envoyé sa photo de lui en caleçon, son sexe ou son caleçon, à tous ses followers sur Twitter. Il s'était trompé. Bon. Au même moment encore, naissait le journalisme moderne via un précurseur des blogs, parce que les nobles, comme le cardinal de Mazarin, embauchaient leur propres journalistes pour rapporter ce que la ville comptait de scandales et d'histoires de sexe. Donc ces plumitifs installaient des bureaux dans tout Paris pour recueillir les nouvelles les plus savoureuses. Ils les écrivaient, ils les recopiaient, ils les distribuaient à des souscripteurs. Les revues littéraires et les journaux ont bientôt fleuri avec tout un nouvel environnement de critique littéraire et culturelle. Sans parler des affiches hein, qui étaient placardées dans les rues pour inviter les gens à des événements qui étaient de plus en plus ouverts au public. Alors, les nouveaux espaces que nous avons créés à notre époque sont virtuels, certes, hein, ils ne sont pas physiques comme ceux du XVIIe siècle, mais les espaces physiques du XVIIe siècle et des Lumières ont aussi causé des perturbations psychologiques. L'Académie française ou l'Académie des sciences, les salons, ces groupes de gens qui se réunissaient pour discuter de littérature, des découvertes, d'idées, de révolutions ou simplement pour assister à un spectacle, eh ben, c'était un changement énorme par rapport au public soigneusement choisi de la cour où le principal travail consistait à flatter. Donc ces nouveaux espaces ont posé de nouvelles questions. Comment s'y conduire ? Comment y apparaître aux yeux des autres ? Soigner son apparence publique est devenu vital. Quel en fut le résultat ? Eh bien, une nouvelle conscience de soi est née à cette époque. Et aussi une nouvelle nervosité sociale. Les acteurs de l'époque se posaient les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui, dit Anaïs Saint-Jude. Comment organiser toute cette information ? Restons calmes, conclut-elle. Nous sommes en bonne compagnie. Rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez retrouver cette lecture lundi sur Internet Actu.
Écoutez l'histoire, l'histoire d'amour de Moussa. Moussa était un enfant roi, la cité des Kamelamba.
Alors, les habitués de Place de la Toile ont tout de suite remarqué que ce n'est pas une sélection de Billy Guidoni. Hein, il n'y a pas de bruit de machine, de 8 bits, de machin. Donc, on écoute les Sazos. C'est votre choix, Alexis Kaufmann. Pourquoi ? Parce que c'est aussi lié au logiciel libre.
Oui, tout à fait. En fait, il s'agit de musique libre. Alors, elle n'a pas forcément un style particulier, mais la licence qui a collé au morceau que vous écoutez, et à tout l'album d'ailleurs de les Sazos, c'est la licence Art Libre. Qui offre les mêmes quatre libertés qu'un logiciel.
C'est-à-dire que je peux reprendre un morceau de cette musique, le mettre en boucle, elle etc., sans payer aucun droit d'auteur.
Voilà, vous pouvez télécharger la globalité de l'album.
Et le traficoter.
Et l'améliorer, le modifier, l'étudier. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, est-ce que les musiciens prennent un risque en faisant ça ? Qu'en est-il de leur modèle économique, etc. Je ne les connais pas personnellement, il faudra leur poser la question, mais disons que en plaçant leur création sous licence libre, eh bien, ils se sont retrouvés aujourd'hui sur France Culture, par exemple.
Ah ouais, c'est bien vu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont ensuite se retrouver sur le site. Peut-être que des organisateurs de salles vont les repérer, ça va faire des concerts, à la sortie des concerts, ils vont peut-être vendre leur CD, etc. etc.
Et on va les écouter peut-être un moment.
Aussi.
Moussa était un enfant roi, la cité des Kamelamba. Comme bientôt la nuit tombait, il s'en revint.
France Culture, Place de la Toile, donc c'est Moussa le titre de ce morceau du groupe Les Sazos. Donc, comme c'est vous qui avez fait le conducteur de l'émission Alexis Kaufmann, c'est une transition parfaite. Donc pour ce troisième moment de cette émission qui fête vos 10 ans, les 10 ans de Framasoft, alors une troisième partie que vous vouliez consacrer à la logique du logiciel libre.
La logique, non, c'est-à-dire que nous...
Ah, c'est pas ça, j'ai pas compris.
Si, vous avez très très bien compris, je me permettrai pas. Mais disons qu'on fait la promotion, la défense comme, et la diffusion du logiciel libre. Et puis on se permet, parce qu'on n'a pas froid aux yeux, d'ajouter sa culture et son état d'esprit. Ouais. Parce que quand vous avez, parce que les quatre libertés, ça donne un modèle, hein, l'usage, l'étude, la modification et la distribution. Et qu'est-ce qui se passe quand on plonge ce modèle dans d'autres domaines de l'activité humaine ? Eh bien, justement, ce sont des domaines qui sont en pleine exploration. Ça peut être dans la culture, la musique, le cinéma. Ça peut être dans les données. On parle beaucoup d'open data. Mmh. Ça peut être aussi, par exemple, on aimerait bien faire cartographier le monde de manière libre, non pas exclusivement
OpenStreetMap.
OpenStreetMap, par exemple. Et puis, l'exemple le plus emblématique, c'est dans le monde de la connaissance, des encyclopédies. Et c'est pour ça que
vous avez invité.
Voilà. Adrien Anix, dans l'association Wikimedia France, stipule pour le libre partage de la connaissance. Ils auraient pu simplement dire pour le partage de la connaissance, mais ils ont accolé le libre partage.
Et pourquoi il est libre ce partage de la connaissance dans Wikipédia, enfin dans Wikimedia d'ailleurs en général, Adrien Anix?
Parce que l'idée c'est de pas forcément s'arrêter à Wikipédia. L'idée, c'est pas de faire progresser. Enfin, on soutient et on défend et on essaye de faire progresser Wikipédia et les autres projets Wikimedia au maximum. Mais le but n'est pas de tout ramener à nous et au contraire de favoriser le partage de la connaissance sous toutes ses formes à partir du moment où il est libre et où il est ouvert. Donc ça peut être très bien en dehors de Wikipédia s'il n'y a pas de manière de l'intégrer dans Wikipédia.
C'est-à-dire, vous faites comment concrètement, ça donne quoi ?
Bah, par exemple. Moi, je travaille beaucoup à aller voir des institutions culturelles pour les pousser à ouvrir leur contenu et à le diffuser sur Internet en général, de manière à ce qu'il soit accessible au plus grand monde. Ça peut être sur papier, si c'est sur papier. Si une institution ne souhaite pas ou ne peut pas diffuser ses contenus sur les projets Wikimedia, bon, à partir du moment où je l'ai convaincu qu'il fallait le mettre à la libre disposition des gens, j'estime que j'ai fait mon travail.
Et ça, ces institutions sont quoi ? C'est des musées
Il y a des musées, des archives, des bibliothèques, etc., qui ont énormément de contenu culturel pour une grande part qui est dans le domaine public ou pour lesquels il est possible en tout cas de le diffuser. Et une des actions de Wikimedia France, c'est de les accompagner pour diffuser ce contenu, soit sur les projets Wikimedia, soit simplement voilà, le libérer.
Ah oui, si vous faites ça au-delà de même de votre propre intérêt comme...
Mais on n'est pas une entreprise commerciale. Notre objectif, c'est le libre partage de la connaissance.
C'est la cause.
Voilà, donc on n'a pas de part de marché à défendre.
Et alors justement, mais ça c'est une question que je pose à vous, Adrien Alix, mais à l'ensemble de vous. En fait, les 10 ans de Framasoft, est-ce qu'en 10 ans, est-ce que vous avez l'impression que ce discours-là, il porte de plus en plus?
Oui.
Ah oui, vous trouvez
clairement. Wikipédia a 10 ans aussi, hein. C'est né en 2001 de la même façon que un peu avant Framasoft. Le discours porte clairement ses fruits. Il y a quelques années, quasi impensable de pouvoir aller voir des musées. On avait énormément de mal à accéder aux institutions culturelles qui nous prenaient pour des espèces de pirates ne respectant absolument pas la culture, parce qu'on a un fonctionnement qui part du bas pour aller vers vers le haut. Et traditionnellement, les institutions ont plutôt un fonctionnement inverse. Ils apportent la connaissance aux gens et nous, on va la chercher. Donc, c'est un peu différent. Et aujourd'hui, en permanence, j'ai des demandes de musées, de bibliothèques qui disent « on aimerait bien travailler avec vous, faire des choses avec vous ». Et il s'agit plutôt maintenant d'organiser ça et d'arriver à faire en sorte que ce soit au-delà du coup de com', on travaille avec Wikipédia, d'avoir vraiment un état d'esprit qui change. Mais clairement, c'est en train de porter ses fruits de manière incroyable.
Ah ouais, Frédéric Couchet, vous diriez la même chose?
Je dirais la même chose et je pense que Wikipédia est l'exemple parfait. L'exemple parfait de l'utilisation d'Internet, qui est un outil de mise en relation de personnes qui ont envie de partager des choses. Si on revient 10 ans en arrière, et qu'on posait la question, quelle sera la principale encyclopédie en ligne ? Est-ce que ça sera Wikipédia ou est-ce que ça sera Encarta, une version propriétaire ?
Ouais.
Les gens auraient dit à l'époque, bon, ça sera forcément Encarta. C'est que ce modèle-là qui peut fonctionner. 10 ans plus tard, c'est Wikipédia qui a gagné. Et je pense que la démocratisation d'Internet a joué un rôle fondamental là-dedans et qu'on ne peut pas lutter contre. Sauf effectivement à essayer de maintenir des modèles économiques du passé, à travers des lois comme Adopi et compagnie. Donc recréer des enclosures. Mais ce discours, il porte. Moi, je fais beaucoup de conférences devant du grand public. Et dès qu'on leur parle de ça, ils réagissent.
J'entends le générique qui commence à se lever, mais j'ai une dernière question parce qu'en vous entendant parler depuis 50 minutes, je me la pose et je me dis voilà, vous parlez d'Adopi, Nicolas Sarkozy hier, qui n'est pas encore candidat à sa propre succession, mais sans doute le sera-t-il, a annoncé qu'il pourrait mettre en place un Adopi 3, alors pour le streaming particulièrement, mais enfin bon, peu importe. Et je me disais, le logiciel libre, c'est de droite ou de gauche ?
Je crois que ça transcende complètement les choses quand on...
Ni de gauche, ce sont pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent proposer, qui veulent développer le secteur non marchand sur Internet.
Ou même marchand.
C'est ni de droite ni de gauche. Si on regarde effectivement dans l'hémicycle, il y a des gens de droite et de gauche qui défendent le logiciel libre pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, effectivement, les gens de bonne volonté normalement soutiennent le logiciel libre. C'est simplement les autres. Est-ce que je peux me permettre juste de citer par exemple un doc d'Ernst & Young qui a été remis hier au Forum d'Avignon, dans lequel ils disent qu'aujourd'hui, l'accent sur de faux débats tels que la liberté d'expression, l'accès à la culture ou d'autres arguments opposant de manière infondée au respect du droit d'auteur. C'est-à-dire que ces gens-là mettent en avant le respect du droit d'auteur et mettent derrière de faux débats la liberté d'expression, l'accès à la culture. Bon. Nous, on met en avant la liberté d'expression, l'accès à la culture et le partage.
Voilà.
Bon, donc on finira. Oui, Alexis, non, juste une seconde parce que.
Ah bah une seconde. Bah alors dans ces cas-là, notre slogan c'est la route est longue mais la voie est libre.
ça ressemble à un slogan maoïste. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc bon anniversaire, bon 10 ans à Framasoft. Tous les liens sont sur la page évidemment de Place de la Toile. Merci d'être venu de si loin. La semaine prochaine, on parlera de jeux vidéo. Bon, il y a une grande expo à Paris, il y a aussi un livre. On en parlera avec Erwan Cario et Alexis Blanchet, Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique. Aujourd'hui, c'était Vincent René. Réalisation, Olivier Guérin. Dans quelques instants, Charles Danzig et ses secrets professionnels. Bonne soirée, bonne semaine.